À l'écoute de RFI, il est 20h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Ah, c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Paget.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, la Corée du Sud qui a un nouveau président.
Oui, il s'appelle Lee Jae-myung, c'est le chef du Parti démocrate et il a pu prendre sa revanche sur l'ex-président destitué, Yoon Suk-yeol, qui avait tenté d'instaurer la loi martiale. Selon des résultats presque définitifs, Lee Jae-myung a été élu avec 48% des voix. On retrouve notre correspondant à Séoul, Celio Fioretti, dans un instant. Nous appellerons aussi notre correspondante à Moscou, Anissa El-Jabri, qui analysera pour nous ce sondage selon lequel la part de la population favorable aux négociations et à l'arrêt des hostilités battrait un record, 64%. Sondage réalisé par le centre Levada, classé agent de l'étranger par Moscou.
Autre titre ce soir en France, le meurtre dans le sud du pays d'un Tunisien, Hichem Mirawi.
Un crime raciste, sans doute aussi anti-musulman et peut-être aussi un crime terroriste, selon le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Sylvie Coffier a joint Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, ce sera le dossier de ce 20h.
Et puis après cette édition, notre coup de fil à nos collègues suisses du quotidien Le Temps, qui vont livrer leur regard. Ça concerne également la France, les violences qui ont terni les célébrations après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions de football. La France s'habitue à contre-cœur aux violences, nous dira le correspondant à Paris du Temps. Et donc pour débuter, le triomphe du candidat de centre-gauche en Corée du Sud.
Lee Jae-myung avait perdu la dernière présidentielle face à Yoon Suk-yeol, mais depuis, son ancien adversaire, le président, a été destitué. Il avait tenté d'instaurer, souvenez-vous, la loi martiale, ce qui permet ce mardi à Lee Jae-myung de prendre sa revanche, puisque selon les résultats officiels, 90% des bulletins ont été dépouillés. Il a été élu avec 48% des voix contre 42% pour son rival. Lee Jae-myung, qui est aussi le chef du Parti démocrate, promet de ne pas décevoir les attentes du peuple, sachant que les Sud-Coréens se sont déplacés massivement pour le scrutin. Des Sud-Coréens qui, après 6 mois de crise politique, ont choisi de rompre avec le parti de l'ancien président, au grand soulagement de nombre d'entre eux. Le reportage à Séoul de Celio Fioretti.
Les soutiens en liesse du nouveau président sud-coréen. Au QG du Parti démocrate, l'ambiance était survoltée après la victoire du candidat de centre-gauche. Pour Kim Min, cadre du parti, plus qu'une victoire politique, ce résultat est un symbole.
Je pense que ce résultat représente un jugement que le peuple a rendu contre le gouvernement précédent. C'est un symbole du rétablissement de notre démocratie et le premier pas vers une stabilité. En plus, on a dépassé la majorité absolue. C'est exceptionnel.
Les soutiens du nouveau président réunis non loin célèbrent eux aussi la victoire dans des élans révolutionnaires.
Le peuple a puni de manière juste et appropriée les responsables de la loi martiale. Vous êtes français ? Eh bien, c'est comme lors de la Révolution française, la victoire de la liberté. Vive la Corée et vive la France.
Lee Jae-myung prendra officiellement ses fonctions demain, une inauguration en urgence pour rattraper les 6 mois d'instabilité politique qui ont mis à mal l'économie et la société coréenne. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Voilà pour la Corée du Sud. La Pologne a, elle aussi, son président. Eh bien, résultat, Donald Tusk va demander la confiance au Parlement polonais le 11 juin prochain.
Oui, on a maintenant la date. Le Premier ministre avait déjà annoncé qu'il le ferait juste après la victoire de Karol Nawrocki, le candidat nationaliste à la présidentielle. Une victoire face au candidat pro-européen soutenu par Donald Tusk. Et si celui-ci va demander la confiance au Parlement, c'est parce que Karol Nawrocki dispose maintenant d'un pouvoir important, un droit de veto sur les lois qui sont votées.
Mais également en Europe, l'Ukraine qui revendique une attaque contre le pont de Crimée.
Pont qui relie la Crimée à la Russie, construit après l'annexion de la péninsule par Moscou en 2014. Le SBU, le service de sécurité d'Ukraine, affirme avoir utilisé plus d'une tonne d'explosifs placés sur les piliers, sous l'eau. Des blogueurs militaires russes affirment que l'attaque a échoué. On va maintenant s'intéresser à l'opinion en Russie. Une opinion extrêmement difficile à cerner en temps de guerre et de censure militaire, puisque si l'on s'oppose ouvertement, on court le risque très élevé de finir derrière les barreaux. Mais il reste quand même des indicateurs, comme les sondages du centre Levada, classé agent de l'étranger par Moscou. Le centre Levada, qui vient de rendre public son premier sondage sur le sujet, réalisé fin mai, juste après l'ouverture des négociations entre Kiev et Moscou, on y apprend que la part de la population favorable aux négociations et à l'arrêt des hostilités battrait un record, 64%. La part de ceux en faveur de la poursuite des hostilités a également battu un record, cette fois à la baisse 28%. À Moscou, Anis El-Jabri.
L'intérêt pour le conflit en Ukraine a semble-t-il augmenté en mai en Russie et c'est clairement dû aux négociations d'Istanbul. Elles sont citées parmi les événements les plus importants du mois dernier et elles sont soutenues par l'immense majorité des Russes. Ils en espèrent d'abord des résultats et des bénéfices concrets comme le retour des prisonniers et ensuite peut-être la fin du conflit. Mais ces blocs pour et anti-négociations recouvrent certaines réalités contre-intuitives. Par exemple, dans ceux qui les soutiennent, on retrouve aussi une part d'électeurs légitimistes. Ceux-là y voient, comme le pouvoir le répète, un moyen pacifique de remplir les objectifs fixés par le Kremlin. Et puis dans ceux qui sont opposés aux négociations, et on retrouve aussi une forte proportion de citoyens qui jugent, eux, qu'elles ne serviront à rien. Ceux-là sont en majorité des Russes pour qui leur pays ne va pas dans la bonne direction. Une réponse et un moyen discret, le plus souvent, pour signaler son opposition à la décision de Vladimir Poutine d'envoyer ses soldats à l'assaut de l'Ukraine. Enfin, le pouvoir semble avoir réussi à faire imprimer son discours sur un cessez-le-feu. Ils sont 18% à peine à se déclarer en faveur d'une trêve avant toute négociation importante. Anis El-Jabri, Moscou, RFI.
À Gaza, la défense civile qui fait état de 27 personnes tuées aujourd'hui par des tirs israéliens et cela s'est à nouveau passé près d'un centre d'aide humanitaire dans le sud du territoire.
Oui, c'est donc une foule en quête de nourriture qui a été touchée. C'est le troisième incident du genre en à peine 3 jours, dénonce l'ONU, qui évoque un crime de guerre. L'armée israélienne avait jusque-là nié son implication dans ces fusillades, mais aujourd'hui, elle reconnaît des tirs de sommation en direction de plusieurs suspects. À Jérusalem, Sami Boukhalifa.
Un nouveau massacre dans le sud de la bande de Gaza où afflue la population affamée. C'est dans cette région de Rafah que se trouve le centre de distribution alimentaire. Après 2 mois et demi de blocus strict, Israël a assoupli ces derniers jours ses restrictions qui visaient l'acheminement de l'aide. Mais l'État hébreu a démantelé le réseau existant de l'ONU pour la distribution de nourriture à Gaza et l'a remplacé par un autre mécanisme, la Fondation humanitaire de Gaza, une société privée au financement opaque qui ne parvient pas jusqu'à présent à assurer sa mission. Les Gazaouis la surnomment la Fondation inhumanitaire. Elle travaille sous la garde des soldats israéliens. Les gens ont faim, ont soif, ils se bousculent, ils luttent pour leur survie, pour repartir avec une ration de nourriture. Mais au moindre mouvement de foule, l'armée israélienne nous mitraille sans hésitation, témoigne Bara, un jeune Gazaoui, au micro de notre correspondant sur place. Les attaques meurtrières contre des civils désespérés qui tentent d'accéder à des quantités dérisoires d'aide alimentaire à Gaza sont inadmissibles, proteste l'ONU. Sami Bourkifa, Jérusalem.
L'ONU qui s'inquiète d'une hausse alarmante des expulsions de familles afghanes par l'Iran.
Oui, Téhéran a expulsé 2 fois plus de familles afghanes en mai que le mois d'avant, selon les chiffres de l'ONU. Et cela intervient alors que le Pakistan, son voisin, a lancé une campagne d'expulsion massive d'Afghans. Ces réfugiés avaient d'abord fui 40 ans de guerre, puis le retour des talibans ou le chômage. Mais l'Iran les pousse à partir, il les accuse de faire monter le chômage, les prix et la criminalité.
Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir sur Radio France Internationale avec Christophe Paget. Christophe, direction à présent le Chili, avec cette première, la justice qui ordonne des arrestations dans l'affaire des enfants adoptés illégalement pendant la dictature d'Augusto Pinochet.
5 personnes, dont une ancienne juge qui vit actuellement en Israël et qui devrait être extradée, sont accusées d'enlèvement de mineurs. Pendant des décennies, des milliers d'enfants, leur nombre est estimé à 20 000, ont été arrachés à leurs parents et remis à des familles à l'étranger. C'est le cas de Johanna Lambollet. Elle avait 5 ans quand on l'a emmenée en France pour y être adoptée. Aujourd'hui, elle est l'une des responsables de l'association RIFE, réseau des adoptés à l'international, et elle se réjouit que la justice avance et qu'une juge ait été arrêtée.
Il s'agit effectivement d'une juge, la seule personne qui était compétente pour signer des documents, pour vérifier la vérité des histoires rapportées pour rendre adoptable une personne. Et c'est vrai que démarrer en tous les cas une étape de justice vis-à-vis d'un des plus hauts dignitaires de justice, c'est un signal qui est vraiment très très fort et qui nous permet à nous de nous conforter aussi sur l'idée que il y a bien eu des exactions qui ont été commises, qui sont quand même très graves. En tant que personne adoptée, je suis bien entendu extrêmement émue de voir que la justice avance et que nous pouvons garder foi en la justice, parce que à travers la reconnaissance de justice, il y a aussi la reconstruction personnelle de chacun de nous. Mais il y a quand même énormément de choses à faire encore, parce que on n'oublie pas qu'il y a des médecins, des assistantes sociales, des psychologues, des infirmiers qui ont aussi œuvré là-dedans, des nonnes, des religieux.
Johanna Lambollet, jointe par Natalia Olivares de la rédaction en espagnol de RFI. La juge n'a pas encore été arrêtée. Elle est pour le moment poursuivie. Elle vit actuellement en Israël.
Aux Pays-Bas, Geert Wilders qui provoque la chute du gouvernement.
Le dirigeant d'extrême droite estime que le gouvernement prend trop de temps pour mettre en place la nouvelle politique d'immigration voulue par la coalition, la plus stricte jamais vue aux Pays-Bas. Il retire donc son parti, le PVV, de cette coalition, le Parti pour la Liberté, qui avait remporté les élections de novembre 2023 et qui est toujours en première position dans les sondages. Le Premier ministre Dick Schoof a jugé la décision de Geert Wilders irresponsable. Le nouveau chancelier allemand défend le refoulement des demandeurs d'asile, défense ferme par Friedrich Merz. Alors qu'hier, un tribunal de Berlin, saisi par trois Somaliens récemment refoulés à la frontière polonaise, a estimé que les pratiques du nouveau gouvernement étaient illégales. Dès le mois dernier, lors de son entrée en fonction, l'exécutif allemand avait instauré le refoulement des demandeurs d'asile aux frontières, une mesure phare du chancelier. Aujourd'hui, l'opposition l'accuse d'être prêt à violer le droit pour réduire l'immigration.
RFI 20h11, ici à Paris et en France, le parquet national antiterroriste, le PNAT, qui reprend l'enquête sur le meurtre raciste d'Hichem Mirawi, un Tunisien. Cela s'est produit dans le Var, dans le sud de la France.
Oui, et c'est une première puisque ce parquet spécialisé n'avait traité jusqu'ici que des projets d'attentats liés à l'ultra-droite. Les autres meurtres, qui selon lui relevaient du droit commun, étaient laissés à des parquets locaux. Mais selon une source proche du dossier, le suspect pourrait avoir commis le meurtre de samedi avec une volonté de troubler l'ordre public par la terreur. La victime, Hichem Mirawi, avait 46 ans. Il était coiffeur à Puget-sur-Argent, dans le Var. Il a été tué par arme à feu par un voisin qu'il a ensuite revendiqué sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo diffusée sur Facebook, l'auteur y tient des propos racistes et incitant à la violence contre les personnes d'origine étrangère. Lors de l'attaque, un ressortissant turc a également été blessé. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, avait déjà réagi hier. Il le répète aujourd'hui, il s'agit pour lui d'un crime raciste, sans doute aussi anti-musulman et peut-être aussi un crime terroriste. On en parlait. Un acte que condamne également Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Il répond aux questions de Sylvie Coffi, c'est le dossier de ce 20h.
Dominique Sopo, à la lumière de ce meurtre ouvertement revendiqué, est-ce qu'on constate une recrudescence des actes racistes en France ?
On constate depuis plusieurs mois, malheureusement, qu'il y a une recrudescence du nombre d'actes racistes. C'est documenté par le bilan annuel des services qui comptabilisent le nombre d'actes racistes et plus généralement d'actes haineux tels que les actes antisémites. Et on voit bien que, par ailleurs, il y a, au-delà des actes racistes, un retour des actes racistes les plus violents, puisque le meurtre de Puget-sur-Argent, qui est même un assassinat, avec la circonstance aggravante de racisme, doublé d'une tentative d'assassinat, ça s'inscrit quand même dans une actualité qui a vu des crimes racistes se succéder.
S'agit-il, selon vous, d'un crime anti-musulman, comme l'a affirmé cet après-midi le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau ?
Écoutez, quel que soit le groupe qui est visé, on reste dans la catégorie les immigrés, les musulmans, les étrangers et leurs enfants, les noirs, les arabes, et qui doivent donc quitter le pays, ou si elles sont ici, baisser la tête et ne jamais se comporter comme l'égal de celles et de ceux qui auraient une forme de légitimité supérieure du fait de leur naissance.
Dominique Sopo, la gauche dans son ensemble s'empare de la question et accuse le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, d'entretenir un discours raciste et d'alimenter un climat propice aux idées de l'extrême droite. Est-ce que vous faites le même constat ?
On voit bien qu'on est sur un ministre qui excite le débat public contre les étrangers, avec cette question des OQTF qui est devenue une sorte d'obsession quasiment caricatural, mais malheureusement funeste. Ce qui est par contre beaucoup plus inquiétant, c'est comment les idées qui sont professées par Monsieur Retailleau, par l'extrême droite, et qui sont relayées dans toute une partie de la classe politique ou dans les médias, eh bien, rencontrent des échos extrêmement favorables avec la mise en place d'écosystèmes de la haine et une offensive qui explique finalement qu'il y aurait une grande lutte entre les civilisations occidentales et européennes et la barbarie qui serait représentée par tous les autres peuples dans le monde, qu'ils soient dans leur pays d'origine ou qu'ils soient en immigration dans nos pays, dont il faudrait les faire partir pour retrouver des sociétés respirables.
Dominique Sopo, président de SOS Racisme, joint par Sylvie Coffi.
Également en France, on en sait plus sur ces trois étrangers soupçonnés d'avoir aspergé de peinture verte cinq lieux juifs, dont le mémorial de la Shoah. Il s'agit de ressortissants serbes.
Oui, ça s'était passé dans la nuit de vendredi à samedi. Les trois hommes ont ensuite été interpellés dans les Alpes-Maritimes. Les enquêteurs envisageraient la piste d'une opération de déstabilisation venue de l'étranger, comme celle des mains rouges peintes sur le mur des Justes au mémorial de la Shoah en mai 2024. Trois Bulgares avaient été arrêtés. Les services de sécurité avaient alors estimé qu'il s'agissait d'une opération d'ingérence de russophones.
Et puis c'est un rapport qui est publié chaque année. Hein. L'Observatoire des inégalités publie ce rapport annuel. Mais pour la première fois, leurs recherches se sont penchées sur les inégalités environnementales.
C'est ça, inégalité environnementale qui touche toutes les catégories de population. Mais même face aux pollutions, les Français les plus modestes sont plus vulnérables que les Français les plus aisés. Amélie Boucourt.
Les pauvres et les riches sont tout autant exposés à des inégalités environnementales. En revanche, il y a des inégalités sociales d'accès aux soins qui font que les jeunes enfants des milieux modestes seront plus touchés que d'autres.
Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, insiste sur l'importance de la nuance lorsqu'on étudie les inégalités environnementales qui mélangent les différences d'exposition à la pollution et l'impact inégal de ces facteurs environnementaux en fonction de la classe sociale. Le rapport met également en lumière l'inégalité d'exposition au bruit, aux poussières toxiques ou aux substances cancérogènes liées au cadre de vie comme l'habitat et le travail.
Respirer des fumées ou des poussières, les deux tiers des ouvriers sont concernés contre, on va dire, 9% des cadres supérieurs.
Ce sont les ménages les plus aisés qui ont l'impact le plus lourd sur le climat. 10% des plus riches émettent 40 tonnes de gaz à effet de serre par an contre 15 tonnes pour les 10% les plus pauvres.
Plus on s'élève dans les niveaux de vie, plus on consomme et plus on pollue à peu près à tous les niveaux.
L'Observatoire souligne enfin le manque d'accès aux données pour étudier d'autres formes de pollution comme la qualité de l'eau ou l'exposition aux pesticides, un angle mort du débat public qu'il est urgent de résoudre.
Un reportage d'Amélie Beaucourt. Et puis cette initiative d'une maison d'édition française face à la montée des traductions par intelligence artificielle, Kalman Levy a indiqué qu'elle allait mettre à l'honneur les traducteurs en indiquant dans les livres leur biographie, leur parcours. Il faut dire ce qu'est un traducteur, c'est une voix, elle n'est pas interchangeable. C'est ce qu'indiquait le PDG de Kalman Levy.
C'est bien vrai. Merci beaucoup Christophe Paget. Bah, c'est vrai tout ce que vous dites dans ce journal du soir. Merci beaucoup. 20h17 ici à Paris.
Romain Ozoui.
Et dans les prochaines minutes à suivre, eh bien notre coup de fil à nos collègues suisses du temps qui livreront leur regard sur les violences en France qui ont terni les célébrations suite à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions de football. La France s'habitue à contre-cœur aux violences, c'est ce que nous dira le correspondant à Paris du temps. Et puis, illustration de la pollution plastique, reportage à suivre au Liban où les autorités sont dépassées et où face au fléau, eh bien la société civile prend le problème à bras-le-corps. Mais pour l'heure, voici les sports. Bonsoir Christophe Dirembian.
Bonsoir Romain.
Allez, le tennis évidemment pour débuter. Roland Garros début dans quelques minutes du deuxième quart de finale masculin.
Oui, l'avant-dernière affiche des sessions de soirée sur le central Philippe Châtrier. On retrouve Frédéric Suteau en direct comme depuis le début de cette journée. Frédéric, le tenant du titre, Carlos Alcaraz qui affronte l'américain Tommy Paul. Jamais monté aussi haut dans le tableau dans le tournoi parisien.
Ah oui, pour Tommy Paul, c'est une première ici, un quart de finale à Roland-Garros, hein, même si dans le passé, il a déjà fait des étincelles, il faut remonter un petit peu, il a gagné le tournoi junior, c'était en 2015, donc le jeu sur terre battue, les glissades, il sait faire et il fait partie de cette génération de joueurs américains installés entre la 10e, la 15e place, là on vous en a parlé dans nos différents reportages. Tiafoe, Fritz Shelton et puis Tommy Paul qui s'apprête à entrer sur le court. Mais face à lui, vous l'avez dit Christophe, c'est le tenant du titre, Carlos Alcaraz, qui se fait de mieux sur terre battue. Il a gagné les deux plus gros tournois qui mènent ici jusqu'à Roland-Garros, Monte-Carlo et Rome cette année. Carlos Alcaraz qui a pris néanmoins l'habitude depuis le début là de la quinzaine de perdre un set par-ci par-là, mais il s'en sort à chaque fois, il sert le jeu quand il le faut. En tout cas, le vainqueur hein, de ce quart de finale retrouvera Lorenzo Musetti, l'Italien, lui aussi l'un des hommes en forme de la saison sur terre battue, qui s'est défait en 4 sets de Francis Tiafoe, l'Américain.
Voilà pour les gars.
garçons. Chez les dames, une première demi-finale qui s'est déjà formée et ce sera le choc de ce dernier carré, à n'en pas douter, puisque ce sera un face-à-face entre les deux taulières que sont la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka et la triple tenante du titre Iga Świątek.
Oui, on les retrouvera jeudi pour cette demi-finale, Aryna Sabalenka et Iga Świątek. Finale avant l'heure, hein, on peut dire. Iga Świątek, elle a gagné les trois derniers Roland-Garros. Et Aryna Sabalenka, certes, elle est bien plus à l'aise sur dur, mais sur terre, elle l'a montré cet après-midi face à Quyen Vinh Zheng, la chinoise championne olympique. Hein, c'était ici l'été dernier. Aryna Sabalenka s'est imposée en 2-7, 7-6, 6-3. Quant à Iga Świątek, eh bien, elle est de mieux en mieux au fil du tournoi. Elle est passée tout près du précipice en huitième de finale. Elle était bien plus solide cet après-midi face à Elina Svitolina. 6-1, 7-5 pour Świątek.
Merci beaucoup Frédéric. On retrouvera dans nos journaux de la soirée évidemment pour des points sur le duel Alcaraz-Paul.
Allez, dans le reste de cette actualité sportive, Christophe, le football et sans surprise Simone Inzaghi qui n'est plus l'entraîneur de l'Inter Milan.
Bah oui, fin de collaboration assez prévisible, on l'imagine, après le cauchemar de Munich, cette humiliation 5-0 par le PSG. En finale de la Ligue des Champions, elle a fini de ruiner la saison des Nerazzurri qui partaient pour un possible triplé avec le championnat et la coupe et qui finissent les mains vides. Inzaghi, lui, ne devrait pas rester longtemps inactif puisque le club saoudien d'Al Hilal lui aurait fait une alléchante proposition.
Et puis également en football, l'équipe de France féminine qui en termine elle, en ce moment avec sa phase de groupe de la Ligue des Nations.
Oui, sans autre enjeu que de bien jouer, de se montrer sous son meilleur jour face aux Islandaises à Reykjavik puisque les Bleus sont déjà qualifiés pour les demi-finales à la fin octobre. 0-0 pour l'instant.
Eh bien, merci. Christophe Diremzian, allez, 20h21 ici à Paris. Alors, en sport, le week-end a été évidemment marqué par la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions de football, mais victoire qui a été ternie par des incidents qui se sont produits en marge des célébrations à Paris et en région. Ce mardi, les autorités françaises tentent de réagir. François Bayrou, le Premier ministre, réclame l'instauration dans la loi de peine minimale. Bonsoir Paul Ackermann.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant à Paris pour le journal suisse Le Temps et ces violences vous ont interpellé. Vous l'écrivez dans votre chronique cette semaine. Comment avez-vous perçu ces incidents avec votre regard helvétique?
Les incidents eux-mêmes m'ont pas tellement étonné parce que ça fait quelques années que je suis correspondant en France et que c'est devenu quasiment systématique à chaque fois qu'il y a un grand rassemblement populaire. Je parle de rassemblement parce que ça peut être autant des manifestations que des fêtes. On se souvient bien sûr des mouvements des Gilets jaunes, des manifestations contre les retraites, mais aussi à chaque nouvel an, je suis étonné de cette sorte de décompte du nombre de voitures brûlées pour juger de l'ampleur des dégâts, sans jamais se dire il faudrait qu'il n'y ait aucune voiture brûlée l'année prochaine. Donc en fait, la polémique qui a suivi m'a un peu atterré parce que entre le ministre de l'Intérieur qui parlait de barbare et du coup la France insoumise qui lui sautait dessus pour le traiter de raciste, je ne voyais venir aucune piste de solution ou même réflexion éventuelle sur les racines de ces violences. Des violences que je pense que quelles que soient les manifestations et les fêtes, même si les raisons de manifester ou de fêter sont complètement différentes et les profils des casseurs complètement différents, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de même processus de casser et de viser les forces de l'ordre qui doit avoir quelque chose de commun. Et dans la réaction, j'y vois à chaque fois des cris de scandale, mais pas de vraies réflexions. Au bout du compte, ce que je vois, c'est une sorte de désarroi et de fait qu'on s'y habitue à contre-cœur. On est bien conscient que c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça, mais on s'y habitue et on ne cherche pas de solution pour que ça s'arrête.
Et vous citez d'ailleurs dans votre chronique les voitures brûlées que l'on observe notamment au passage de la nouvelle année. Vous avez le sentiment que les autorités ne tirent pas d'enseignement de ces violences qui reviennent régulièrement à l'occasion de célébrations en France?
On cherche même plus les raisons. Je pense qu'on peut quand même tirer des traits entre les manifestations et les émeutes urbaines. Ça ne peut pas être un hasard que c'est dans ce pays qu'à chaque fois ce genre de débordement a lieu. Et puis, on a bien vu cette fois-ci qu'il y a eu des centaines d'interpellations, des milliers de représentants des forces de l'ordre. C'est pas ça qui a arrêté ces violences. Donc, peut-être se poser la question en amont, qu'est-ce qui pourrait être fait. Par ailleurs, je voudrais quand même dire, moi je me suis baladé dans Paris samedi soir, pour voir ça, en vélo, dans différentes parties, y compris à proximité des Champs-Élysées. On a dit ça a gâché la fête. Non, il y avait une énorme fête, une ferveur festive absolument énorme, qui partait un peu en vrille, mais sans agressivité la plupart du temps. Et puis, on a bien sûr vu ces images de casse et de pillage, mais je pense qu'il ne faut pas non plus en faire une généralité. Et d'ailleurs, les drames qu'il y a eu, les décès, n'étaient pas du tout à proximité des Champs-Élysées. Donc, le lien entre la célébration et le drame a été écarté. Aussi, relativiser un peu la manière dont ça a été présenté en début de semaine.
Et évidemment, il y a un effet loup parce que ces violences sont graves. Dernière question, parce que vous avez évoqué les réactions de la classe politique. Là encore, il y a un systématisme français, selon vous, avec votre regard suisse, encore une fois, correspondant à Paris pour le journal Le Temps. Il n'y a aucun sujet, finalement, qui peut faire consensus dans la classe politique. C'est ça que ça veut dire, même quand il s'agit de réagir à des violences.
Vous dites qu'il y a un effet loupe à cause de la gravité. Il y a aussi, et même peut-être surtout, un effet loupe parce que c'est récupéré politiquement avant même la fin du match par le Rassemblement national, par Bruno Retailleau, qui essaye de faire un concours de qui le dénoncera le plus fortement avec les sous-textes les plus scandaleux. Il y a des récupérations politiques, y compris à gauche, où on saute sur l'occasion pour traiter la droite de raciste, etc. Peut-être que le problème, c'est justement qu'on pense plus à récupérer politiquement ces faits et le choc qu'ils provoquent que de chercher des solutions. C'est cette polarisation du paysage politique qui empêche peut-être de chercher des solutions consensuelles.
La France s'habitue à contre-cœur aux violences. Ça, c'est le titre de votre chronique donc cette semaine dans Le Temps, que l'on peut retrouver sur le site internet du journal. Merci beaucoup, Paul Ackermann.
Merci à vous.
Et direction à présent le Liban pour évoquer le fléau de la pollution aux microplastiques. Celle-ci est partout dans le pays, en bord de mer, le long des fleuves. Et puis les conséquences, on les connaît, perte de la biodiversité et à cause des particules générées, eh bien maladies cardiovasculaires, cancer également. Seulement voilà, le Liban est tellement dépassé par les crises à répétition que les autorités ne peuvent pas prendre le problème à bras le corps. Donc c'est la société civile qui s'en charge. Écoutez plutôt ce reportage au nord de Beyrouth, signé de notre correspondante Sophie Guignon.
Au Liban, la mer est bordée d'immondices. À Kfar Arbida, à 50 km au nord de Beyrouth, des écoliers viennent nettoyer la plage avec des bénévoles de l'ONG Swim. Marco Sado est biologiste marin.
Le microplastique va aller dans l'eau. Micro, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Et les poissons et les algues l'absorbent et automatiquement, ça va se retrouver dans notre alimentation. Si chacun ramasse une bouteille, il peut sauver des millions et des millions de vies sous-marines.
Les adolescents découvrent l'ampleur de la pollution en Méditerranée, la mer la plus contaminée du monde. Marcus Najar, 16 ans, et Talia Kanir, 15 ans.
C'est du verre, du bois, un paquet de chips, une tortue pourrait s'étouffer avec, elles sont en voie d'extinction. On a trouvé beaucoup de choses, franchement, je suis déçu des Libanais.
Où qu'on aille, on voit des gens qui jettent leurs déchets dans la mer, sur les plages, dans les rues.
En moins de 2 heures, ces jeunes Libanais ont rempli des dizaines de sacs de détritus et même exhumé des pneus. Une pollution venue en amont pour Marco Sado, le biologiste marin.
Le problème, c'est 90% de cette poubelle qu'on a là, elle est venue par les rivières. Parce que les municipalités en haut de la montagne, elles les jetaient dans les rivières. Et les rivières les emportaient avec les pluies et les jetaient à la plage.
Les déchets seront ensuite triés et donnés à des entreprises de recyclage, comme Plastic Lab au nord de Beyrouth. Fondée par 2 frères, Ralph et Ramisbert, elle compte 7 employés. Ici, rien ne se perd, tout se transforme.
On peut voir aussi le broyage ici. Donc, à la fin, c'est ce qu'on est en train d'obtenir. C'est la première étape pour le plastique. On est en train de transformer ce broyage en matériaux comme des poutres, des plaques et tout.
Dans l'atelier, les paillettes sont ensuite fondues.
Il y a ici des plaques chauffantes. Et puis on va avoir comme une sorte de pâte à modeler. Et puis ça va être injecté dans le moule. Et puis quand c'est froid, on le met dans un bac à eau. Et puis ça va être la forme du moule.
Matériaux de construction, meubles et même accessoires, l'usine remodèle 60 tonnes de plastique par an.
On est un des joueurs ici au Liban qui sont en train de minimiser le volume des déchets. Le problème principal, c'est qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de décharge pour mettre les déchets.
Tandis que le seul site d'enfouissement de Beyrouth est sur le point de déborder, si rien n'est fait, les poubelles pourraient s'amonceler dans les rues. Sophie Guignon, Beyrouth RFI.
Et retour à Paris, 20h29. Ne bougez surtout pas, la session d'info de la soirée, elle se poursuit pendant 1h30 encore. Afrique Soir à suivre, à la une ce soir, des accords migratoires signés entre le Sénégal et la Mauritanie. On en parle dans une poignée de secondes.
Cool, cool, cool.
Couleur tropicale, Claude Issiard.
Le show afro de la radio au cœur des musiques pop et du panafricanisme. La jeunesse nous parle dans la génération consciente, la libre antenne. Les invités s'y expriment et répondent à vos questions. Le show afro de la radio, c'est couleur tropicale, Africa et ses diasporas.
Couleur tropicale, Claude Issiard.
S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble.
Couleur tropicale, du lundi au vendredi, à partir de 20h10 TU.